Le Brésil à la baguette avec Simone Menezes.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Sur RFI, il n'y a pas que de l'actualité chaude et tragique. Non, non, il y a aussi de la musique. Pop, funk, afro. Soyons en sol majeur de façon classique aujourd'hui en recevant une exception culturelle, Madame Simone Menezes, brune profonde, venue avec sa baguette de chef d'orchestre très recherchée dans le monde. Une exception en tant que deuxième femme chef d'orchestre au Brésil, sa terre natale. Une exception aussi dans sa manière de réenvisager les partitions de Fauré, Villa-Lobos ou Arvo Pärt. Il se peut que la Menezes, face à la musique, ne vivent plus le piédestal de la même manière que les chefs d'orchestre d'autrefois. Formée à la Royal Academy de Londres et à l'École normale de musique de Paris, au fil de l'eau, au fil des mots, elle a mitonné sa petite cuisine à elle auprès des plus grands chefs, de Daniel Barenboim à Paavo Järvi, en recherchant l'au-delà de la musique. Bonjour Simone Menezes.
Bonjour.
Au moment où je vous accueille dans ce studio en sol majeur, est-ce que vous avez une petite musique en tête?
La musique qu'on vient de parler ce matin, la musique des Tons Jobim.
Voilà, on va peut-être même finir l'émission en sol majeur avec, mais juste comme ça pour le petit parfum, le petit prélude à cette émission, ça fait comment musicalement, cette chanson de Tons Jobim?
En portugais, c'est « Eis aqui o meu sambinha feito de uma nota só ».
Podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda ao cais a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar. E das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Parada, 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 parada. Da primeira vez era a cidade, da segunda ao cais a eternidade. Agora eu já sei que eu no mar. E das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Alors pour votre en sol majeur, Simone Menezes sur RFI, je me suis permis une petite entorse, programmée Wave, ce morceau de Tons Jobim, mais avec la voix de Vinicius. Vous en dites quoi?
Ah, j'adore. Et d'ailleurs, Tons Jobim, ce n'est pas un grand chanteur. Lui-même, il disait qu'il est plutôt un compositeur. Et parce que la bossa nova, ce n'est pas une musique focalisée sur les mélodies très virtuoses. Elle est focalisée plus dans l'harmonie. Ça les convenait très bien, mais c'est plus agréable quand on écoute quand même quelqu'un comme Vinicius ou d'autres chanter la musique des Tons Jobim.
Ouais. Et vous trouvez un lien alors entre la bossa et la musique française?
Absolument, je trouve la chanson française et la bossa nova proches dans certains aspects. D'ailleurs, ce sont deux mondes où la poésie, c'est presque la littérature. Elle est très sophistiquée, les jeux des mots, la profondité des paroles, aussi la façon de chanter. C'est pas comme les leads allemands ou d'autres. On chante un peu dans une voix plus proche de cette voix qu'on parle. Donc, il y a des choses très pareilles.
Alors, dans votre valise sonore, c'est-à-dire celle de l'enfance à Brasilia, je crois savoir qu'il y avait des réveils en musique avec des disques dans le salon. C'est délicieux hein, de se réveiller avec de la musique. Et alors, un matin, ça pouvait être une petite samba traditionnelle. Et puis, le lendemain, un grand classique.
P comme partition familiale.
Avec la voix en sol majeur de Shir Tidiane Sek qu'on embrasse. Alors, est-ce que cette partition, Simone, peut ressembler à un matin d'enfance à Brasilia?
Absolument. J'ai eu le privilège d'avoir une famille qui avait la musique comme partie de la vie, d'une façon très éclectique. Mon père avait l'habitude de nous réveiller avec la musique, mais on ne savait jamais qu'est-ce qui va se passer le matin. Ça pourrait être un Mozart, un Requiem, ça pourrait être un samba. On avait presque peur. Vers 6h30, qu'est-ce que ça va venir?
Mais c'était un événement.
C'était un événement. Le début de matinée avec musique.
Que faisait votre père?
Mon père était un contrôleur de vol. Il travaillait dans l'aéroport. Contrôleur de vol, je pense en français.
C'est joli, contrôleur. Aussi.
C'est un contrôleur de vol, mais il était aussi un musicien amateur. Il dirigeait des chœurs, il jouait les trompettes. Donc, il était un chef quand même.
Et pédagogue, apparemment, parce qu'il vous a appris à aimer la musique.
Absolument, absolument.
Il vous a aussi appris à penser à Dieu de façon différente.
En fait, l'histoire dans ces sujets, c'est très intéressant. Mon grand-père travaillait dans une mission qui s'appelait l'Armée des Saluts. Son rôle était de construire des orphelines dans plusieurs villes au Brésil. Et donc, mon père a grandi dans une tradition très forte, chrétien, mais il même a devenu agnostique parce qu'il y croyait Dieu, mais il ne croyait pas à la religion. Et donc, on a appris un peu avec lui à chercher cette chose un peu plus dans la racine et pas dans la superficialité, de réfléchir le monde et les choses d'une façon plus intéressante. Oui.
Et puis à recevoir la musique sacrée d'une autre façon peut-être?
Complètement. À aussi voir que toute la nature, elle chante, que les mondes chantent, que l'univers chante, que les sacrés c'est partout, et pas seulement dans la musique ou dans une église.
Et puis on peut rendre un tout petit hommage aussi à votre grand-mère espagnole, qui avait elle aussi un lien à la musique.
Elle était organiste. Sa famille était des immigrants de l'Almeria au sud de l'Espagne.
Alors, à vous entendre comme ça, on a l'impression que tout ce qui était politique, dictature militaire, coup d'État, etc. au Brésil, c'était pas tellement votre souci, d'autant que la musique et puis aussi devenir chef d'orchestre, c'était un rêve d'enfant pour vous.
Oui, en fait, mon rêve d'enfant, c'était toujours de faire de la musique avec les autres. Donc, ma mère rappelle que quand j'avais, je ne sais pas, 8-9 ans, je décidais de faire tous mes voisinages, apprendre la flûte à bec parce que je voudrais jouer avec d'autres.
je n'avais pas de référence de chef d'orchestre féminin, il n'existait pas à l'époque.
Et pour cause, oui.
Mais je n'ai jamais me posé la question non plus de si c'est possible ou pas. Je voudrais juste faire la musique.
Ouais. Pourquoi partir en France pour faire vos études?
La France, au départ, elle a commencé parce que j'avais un intérêt sur la musique contemporaine. Et à l'époque, je savais que la France était un peu le berceau de toutes ces rencontres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours cette libre pensée française, c'était quelque chose qui m'attirait énormément.
Plus qu'au Brésil?
Plus qu'au Brésil. Au Brésil, on a une liberté de la tradition, parce que c'est un pays très jeune. On raconte des blagues, c'est les pays qu'on va mettre des stroganoffs dans les croissants, qu'on va faire plein de choses, des mélanges, parce que la tradition est très jeune. Donc, on n'a pas de compromis. Mmh. Mais la pensée, c'est pas aussi profonde et libre qu'en France, je trouve.
Alors, vous allez faire une rencontre déterminante, Simone Menezes, avec le chef d'orchestre estonien, Paavo Järvi. Vous allez nous dire pourquoi, après qu'il ait expliqué son lien à la musique.
There is something about the language in the Bizet, musical language, that...
Il y a quelque chose dans le langage musical de Bizet qui nous fait immédiatement ressentir une affinité. On sent que cette musique n'est pas artificielle.
That this music is not artificial. It feels as if it comes out very naturally, but when you start then seeing how it's put together, and you never also feel. Even when the music is very light, you always feel that there is substance, that there is something, there's depth.
Elle coule très naturellement, mais on peut y regarder en détail. Même si elle est légère, c'est une musique profonde. Ce que j'espère, c'est que l'orchestre de Paris, avec sa maîtrise du répertoire français, donnera à cette musique ce que je n'y ai jamais trouvé, et cela tient beaucoup aux instruments avant.
Something and also a lot of it has to do with the way woodwind is handled. I consider him a real genius, Bizet. There are these few composers who I think clearly are in the shadow of Mozart. Bizet is one of them, Mendelssohn is another one. A real genius is whose music...
Moi, je le considère comme un génie, Bizet. Il y a comme ça quelques compositeurs qui sont clairement dans l'ombre de Mozart. Bizet est l'un d'eux, tout comme Mendelssohn. De vrais génies dont la musique a tellement de personnalité, mais qui n'ont rien inventé de nouveau, en termes de style, de façon de composer. C'est toujours dans la forme établie de la symphonie classique.
C'est tout dans la forme d'une sorte de classique établie symphonie.
J'espère que c'est clair. L'oiseau rebelle de Bizet, donc un tube en sol majeur pour nos auditeurs en tout cas, et pour accompagner les propos de votre maître, Paavo Järvi. En quoi il a été votre maître, Simone Menezes?
Paavo était quelqu'un qui m'a aidé à trouver ma liberté d'interprétation. C'est vrai que comme jeune chef, on apprend plein de choses. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. La tradition dit ceci, la tradition dit cela. Et lui, il dit... En fait, les notes, ce n'est pas les tops. La note, c'est la base. Et après ça, il y a plein de choses qu'il faut qu'on mette ensemble.
Diriger par phrase et non par mesure. C'est ça que vous avez appris, c'est-à-dire?
Surtout, les musiciens, plus que les chanteurs, on reçoit une partition et on joue note par note. Mais la partition, c'est une expression d'une musique qui existait avant dans la tête de compositeur. Donc, le but, c'est pas de jouer ça qu'il a écrit, mais d'essayer de deviner ce qu'il avait dans la tête. Et en général, on devine quand on regarde les macros. On imagine si je chante cette phrase, comment je chante, où je respire, dans quel sens elle va.
Alors après, vous allez rentrer au Brésil, vous allez devenir Simone Menezes. C'est incroyable de le dire en 2024, la deuxième femme de chef titulaire au Brésil. Est-ce qu'il faut une force de caractère particulière pour affronter cette arène d'hommes qu'il y a dans ce milieu lyrique?
Je pense qu'il faut avoir une vision très claire de ce qu'on cherche et clair pour ne pas sortir de sa place. Parce qu'on va entendre beaucoup de choses.
Contre le fait que vous êtes une femme chef d'orchestre.
Oui, et je trouve qu'il n'y a pas forcément une mauvaise intention. Il y a juste quelque chose de bizarre encore dans les regards des gens.
Une tradition.
Je donne cet exemple. Quand il y a quelques mois, j'ai une fille et cette fille m'a dit, tu sais, maman, peut-être l'année prochaine, à l'école, j'aurai un maître et je ne voudrais pas parce que peut-être il n'est pas gentil. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Et après, je me suis dit, je suis dans la même logique. Dans notre imaginaire collectif, on préfère une maîtresse. Sauf que c'est pas vrai. Donc, j'ai dit non, si tu as un maître, c'est parce qu'il est très bon. Et c'est là où je m'ai rendu compte qu'il n'y avait pas des mauvaises intentions dans moi-même. Il y avait juste un regard qui juge les choses que je ne connais pas. Et c'est ça qui se passe encore dans les métiers. Mais on est en train d'échanger.
Simone Menezes dans le fauteuil dans Sol majeur, émission où l'on parle du lien au sol. Mais attention, il y a un jeu de mots, c'est-à-dire à la terre, qu'elle soit natale, d'accueil ou d'adoption.
La musique souvent me prend comme une mère, ferme ma palette d'eau. La musique souvent me prend comme une mère, ferme ma palette d'eau. J'escalade d'eau, des flots, un monstre.
Quel est votre sol majeur?
Que la nuit me voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés. Comme de la toile.
Je sens vibrer en moi.
J'escalade du bout des flots et des oiseaux qui soufflent. La nuit me voile.
Waouh. Mon sol majeur au niveau endroit, ça reste aujourd'hui la France, même avec le soleil qui n'est pas toujours là.
Oui.
Mon sol majeur au niveau musique, ça reste la diversité et l'excellence.
Oui, mais ça, qui ne vote pas en étant à votre place sur un piédestal comme chef d'orchestre pour l'excellence Mais quelle est votre vision alors? Parce que vous parlez de vision souvent.
Ma vision, c'est que la musique classique, elle est un trésor qui peut toucher n'importe quel être humain. Quand j'étais jeune, de voir des enfants de la favela qui étaient partis des projets sociaux et qui pourraient être touchés par ma lyre. Et donc, je crois qu'encore on est cloisonné par des traditionnalismes. Donc ma vision, c'est qu'il faut qu'on ouvre la musique classique et cette trésor pour qui on puisse toucher les maximums de personnes possibles.
Ce qui vous intéresse, c'est quand vous vous attaquez à une œuvre, le contexte de cette œuvre et la biographie du compositeur. Pourquoi?
Quand on revient à la théologie, il y a une phrase que j'adore qui c'est « texte sans contexte, c'est un prétexte pour hérésie ».
Vous avez fait philo, vous, non?
Non. Et je pense qu'une partition, c'est un texte qui a besoin d'un contexte.
C'est la même chose en littérature. Le mot nationalisme, il a eu des périodes dans l'histoire et des contextes différents. Donc, c'est important de s'y coller. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est choisir trois partitions qu'il vous arrive, Simone Menezes, de mener à la baguette. Et vous allez nous éclairer. Première partition. De Villa-Lobos, 1887-1959. Villa-Lobos, c'est d'abord un musicien autodidacte avant de rejoindre l'Institut National de Musique de Rio de Janeiro. « Ma musique est naturelle comme une chute d'eau », disait-il, et il rajoutait « un pied dans l'académie et vous êtes déformé ». À quoi ? J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui, dans sa biographie, Simone Menezes, vous intéresse pour diriger, comme on l'entend en ce moment, sa Floresta do Amazonas ?
J'adore Villa-Lobos. Je pense qu'il était un des plus grands compositeurs des Amériques et qu'il n'a pas sa place dans les mondes classiques pour deux raisons bêtes. Par exemple, la musicologie qui travaille les compositeurs latins, surtout latino-américains, est très jeune. Elle a moins de 30 ans. Donc on n'a pas assez de recul pour... Il y a même des partitions de Villa-Lobos qui sont encore dans les manuscrits. Et je pense que de plus en plus, il va devenir un compositeur universel. D'abord, il y a un mot qu'on utilise pour parler de lui, c'est anthropophagique. Il disait qu'il mangeait toutes les choses pour construire sa propre chose. Et il va effectivement utiliser les spectres des couleurs de la musique française, la vision primitiviste de la musique de Stravinsky, les lyrismes mélancoliques du fado portugais, de la syncope, de danse des esclaves brésiliens. Il va utiliser tous ces éléments pour construire quelque chose qui, à mon avis, c'est très universel.
Mais j'ai bien appris votre leçon, Herr Professeur. Dans quel contexte il a composé cette forêt d'Amazonie ?
Villa-Lobos était un passionné de la nature.
C'était en 59. Hein,
c'était en 59.
Donc c'est une œuvre ultime.
C'était une de ses dernières. Et il était dans un moment de sa vie qui lui voudrait plus faire plaisir à personne. Et d'ailleurs, cette musique, c'était une commission pour un film de Hollywood avec Audrey Hepburn.
C'est vrai que c'est très narratif. Hein, c'est... On peut imaginer des images tout de suite.
Qui s'appelait Green Majors, mais il avait des instructions très claires de comment faire la musique pour un film. Et il n'a pas suivi. Il a fait la musique qu'il avait dans sa tête, qui était plutôt un poème symphonique qu'une musique de film. Et donc les studios ont dit, bah, c'est pas possible d'utiliser. Et Villa-Lobos a dit, bah, tant pis, je garde avec moi. Ouais. Il l'a transformé dans un poème symphonique. Il y a des musicologues qui disent qu'il n'était jamais en Amazonie, mais en fait, il était dans l'Amazonie parce qu'il y a plein de registres de lui à côté de Manaus. Et donc, il y avait cette vision de qu'est-ce que c'était la forêt, mais aussi pas avec cette vision qu'on a aujourd'hui un peu rêveuse, comme c'est la forêt. Je pense qu'à cette époque, il y avait peur de la nature et pas comme aujourd'hui, qui ont détruit la nature. On a inversé les pouvoirs de l'homme.
Avec vous, Simone Menezes, deuxième partition. Concerto en sol de Maurice Ravel, et vous êtes bien sûr RFI. Ravel, 1875-1937, compositeur français et figure majeure du courant dit impressionniste du début XXe siècle. J'ai regardé, j'ai fait ma petite leçon moi aussi, donc il a eu une enfance heureuse au Pays Basque, entre des parents aimants et cultivés. Il fait le Conservatoire de Paris en 1889 avec un certain Gabriel Fauré comme professeur de composition. Fauré qui note, à propos de son élève, « nature musicale très éprise de nouveautés avec une sincérité désarmante ». Alors là aussi, qu'est-ce qui dans sa biographie vous aide, Simone Menezes, à diriger, comme on l'entend encore pour en sol majeur, son concerto en sol ?
On est en concerto en sol encore.
Oui, c'est un hasard. Hein.
Pour moi, Ravel, il avait aussi, comme Villa-Lobos, une libre pensée. Et d'ailleurs, cet concerto, au départ, son idée était d'utiliser des influences de la musique espagnole. Et après, il était aux États-Unis pour une visite. Il a rencontré Gershwin, il a vu le début de cette musique américaine et il a changé d'avis. Et il a décidé de laisser la côté espagnol pour une autre chose. Il y a fait avec une influence forte de la musique de Gershwin et de la musique américaine sur ses concertos.
Wow. En quoi il est très français à vos oreilles ?
Ah, c'est une belle question. Je pense que pour moi, qui ne suis pas française et qui vois cette culture française dans un regard plus large, la caractéristique plus forte, c'est l'ouverture de la recherche des couleurs et des formes un peu moins ciblées qui s'est passée dans les débuts du XXe siècle.
Qui aurait un lien avec la peinture de l'époque ?
Complètement.
Toujours avec vous, Simone Menezes, troisième partition.
Arvo Pärt, donc né. Alors les gens de radio adorent hein, Arvo Pärt. Nous, on s'habille été comme hiver avec sa musique. Né en 1935 en Estonie et l'histoire est magnifique. C'est sur un vieux piano à queue dont seuls les registres extrêmes peuvent être joués correctement qu'il apprend. Et qu'il apprend quoi ? Ben justement, à expérimenter, à trouver de nouvelles formes. Il entre au conservatoire de Tallinn, où on enseigne notamment l'histoire du Parti communiste et la science de l'athéisme. Quand on entend son Dapachem dominé, ça laisse songeur. Alors qu'est-ce qui, dans ce début de biographie, explique selon vous, en partie, sa musique, Simone Menezes, que vous dirigez là encore ?
C'est intéressant de lire, de vous entendre, parce qu'on revient encore une fois à la liberté. Même s'il était dans un contexte qui la liberté n'est pas en valeur majeure, il a gardé sa liberté. Et là, c'était le contraire, sa liberté d'utiliser sa création ou même sa foi dans un contexte où ça s'était interdit. Et je pense que c'est une caractéristique de tous les artistes qui vont laisser quelque chose pour le monde. C'est une fidélité à sa vision. Cette musique vient parce que j'ai rencontré Arvo Pärt parmi Paavo-Järvi, etc.
Oui, oui.
Et il y a une histoire de l'immigration de Neemi Järvi, du père de Paavo, aux États-Unis. Neemi était en Estonie et Arvo Pärt savait qu'il était interdit de jouer certains répertoires. Et il a composé son credo, qui d'ailleurs c'est magnifique. C'est dans une époque un peu plus expérimentale de sa musique. Et Neemi savait qu'il ne pouvait pas diriger cette musique.
En Estonie.
Il a dirigé un jour et l'autre jour, il est parti en cachette pour les États-Unis et a immigré.
La contrainte produit aussi de la liberté. Hein, ça, c'est
complètement.
L'histoire le raconte bien. Alors j'aimerais vous faire entendre une voix un petit peu brouillée hein, par les années, mais toujours et peut-être même de plus en plus précieuse à entendre, c'est la voix de Nadia Boulanger. Vous le savez bien, c'est un phénomène de femme pédagogue qui a été l'une des professeurs de composition les plus influentes hein, du XXe siècle. Elle a eu pour élèves Gershwin, Bernstein, Philip Glass, Astor Piazzolla, Quincy Jones, etc. Écoutez ce petit documentaire qui vaut son pesant d'harmonie. On est en 1977, elle a 90 ans. Et elle fait travailler un élève de 7-8 ans, la fantaisie en ut mineur de Mozart. «
Et quoi?
En ré majeur.
Oui, mais enfin, ça que tu le dises, toi-même qui joues, ça, c'est naturel. Mais enfin, tout d'un coup, ré majeur. Alors, il faut que l'oreille qui a entendu passer, et tout d'un coup, qui... C'est rentré dans ce ré majeur. C'est, ça n'est pas seulement une entrée en ré majeur. Et par quoi est-ce qu'on peut le définir? Je vais employer des mots, cette expression de tendresse, cette expression de tension, tout ça est faux. C'est seulement ce que la musique elle-même est.
Je vous conseille en sol majeur de voir ce portrait de Nadia Boulanger, c'est sur internet. Il est signé Bruno Mont-Saint-Jean et c'est dans votre en sol majeur. Simone Menezes, Nadia Boulanger, alors, elle aussi, elle est née dans une tension entre un père issu de l'intelligentsia française et une mère issue de l'aristocratie russe. Est-ce que vous pensez que de cette tension peut naître justement une recherche d'harmonie?
Absolument. Nadia, c'est une des grandes femmes de ce siècle qui c'était grâce à elle que la musique du XXe siècle a pris cette direction. On a une tendance dans les conservatoires, au niveau historique, de garder la tradition ou de donner de vision de futur par la vision de certains compositeurs qui gardent un certain pouvoir. Et Nadia, c'était une porte ouverte, capable de recevoir des élèves du monde entier et les aider à trouver sa propre voie avec excellence. Et donc, c'était grâce à elle que cette petite sème de la musique classique est partie dans plusieurs continents et ont construit des nouvelles accents de musique.
Mais en fait, elle a donné, c'est ça que vous dites, Simone Menezes, elle a redonné du pouvoir à l'interprète.
Absolument. Et elle a donné aussi les pouvoirs. Ça, c'est intéressant. On revient à la liberté pour la quatrième fois. Elle a donné à les compositeurs la liberté d'écouter sa propre voix.
Vous connaissez Prokofiev, j'imagine. Mais est-ce que vous connaissez Prokofiev, dirigé par Sergiu Celibidache, chef d'orchestre roumain? Ça donne ça.
Zofort piano. Ram titit. Subito. Ja, das ist aber absolut nicht. Im klassischen Sinne, wo gibt es sowas? Ja. Ja, jawohl. Das ist ein bisschen großmäulig. Na, 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 Wie war dim, bam, bim, bim, bam, ein bisschen hinter mir gewesen. Noch einmal. Und!
On ne s'en lasse pas. C'est vrai qu'observer un chef d'orchestre, ça peut être un spectacle pour les yeux et pour les oreilles. D'ailleurs, je milite pour que les répétitions soient publiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous, Simone Menezes, vous êtes devant un orchestre, je ne sais pas, de 50 musiciens, sur un piédestal, une baguette à la main et la partition d'un génie de la musique qui vous habite? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là pour vous?
Nous jouons un instrument, comme un pianiste joue le piano. Donc il faut qu'on soit habité par la musique, et la musique qu'on avait construite d'abord dans notre tête. Pour ça que c'est intéressant de voir qu'il chante en fait comme il a construit dans sa tête, mais il n'a pas l'instrument.
Oui, c'est ça.
Et c'est cette projection des vibrations de cette musique qui en apporte.
Mais vous jouez, quand vous dites vous jouez, c'est drôle, je l'entends au pluriel. Mm. Vous jouez de tous les instruments, c'est ça qui habite Celibidache. Et c'est pour ça qu'il y a de la dramaturgie dans la manière de diriger.
Complètement. C'est très vibratoire parce qu'on a la communication du geste, la communication du regard, mais il n'y a pas de son. La baguette n'a pas de son. Donc, c'est une construction très intéressante, très intéressante.
Votre langage de chef, car j'imagine que chaque chef a un langage, vous le définiriez comment?
J'aime bien un langage un peu plus poétique dans le sens où on a aujourd'hui le privilège d'avoir des orchestres avec des musiciens extraordinaires qui on peut donner des instructions musicales plutôt que des instructions techniques. On peut dire ici je voudrais un son plus léger parce qu'il faut construire une couchée de soleil. Dans la place de dire ici je voudrais qu'il soit plus sul tasto et avec l'archet qui joue au milieu. Donc on est libre aujourd'hui avec les niveaux de musiciens qu'on a, qui d'ailleurs c'était à mon avis les plus élevés de l'histoire jusqu'au là,
de le faire. Avec des associations d'idées.
Absolument.
Si on vous suivait, une minute en sol majeur maintenant, Simone Menezes, avec votre ensemble K dans votre voyage initiatique en Italie et un projet intitulé Metanoia.
Quel est le mot que vous aimez le plus ?
Simone Menezes.
Quel est le mot que j'aime le plus ? Amour.
Facile.
Non, mais ce n'est pas une réponse naïve, c'est bien réfléchi. Une fois, j'ai lu une chose super intéressante qui disait que comme des couleurs primaires, on a aussi des émotions primaires, et que les deux émotions primaires du cerveau humain, c'est l'amour et la peur. Le contraire de l'amour, ce n'est pas forcément la haine, c'est la peur. Et donc l'amour apporte la confiance, apporte la liberté, apporte d'autres choses.
Mmh. Alors cette question, c'était un petit clin d'œil en fait pour nous rapprocher de votre projet Metanoia. Que veut dire ce mot ?
Metanoia, c'est un mot grec. Littéralement, meta, ça veut dire changement au au-delà. Et noia, ça veut dire intellect. Même elle était traduite de temps en temps dans les contextes de la Bible comme mot repentance, mais ce n'est pas du tout ça. C'est juste, je change la vision, je change les chemins. Et pour moi, c'est un besoin qu'on a dans les mondes contemporains de faire la paix avec nos émotions, de faire la paix avec des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser avec notre intellect.
Mmh. De faire la paix avec la peur.
Oh, avec la peur aussi.
Pourquoi votre ensemble s'appelle l'ensemble K ?
Bon, il y a K, c'est une lettre très intéressante. C'est une lettre qui vient de l'alphabet phénice, qui avait comme symbole une main en train de donner quelque chose. Il y a une relation aussi avec les gestes de direction d'orchestre pour moi. Puis, quand on était en train d'organiser notre pensée artistique, quelles sont nos valeurs ? Nos valeurs sont les classiques, les contemporaines, les cosmopolites, c'est une valeur très importante. Et on s'est dit, c'est tout avec C. Peut-être on change la lettre de nos valeurs pour classique avec K, contemporaine avec K, cosmopolite avec K. Et finalement, on a dit, donc on garde le K.
C'est bien, c'est une petite leçon sémantique dirigée. Hein, quand on s'appelle Simone Menezes, c'est plutôt offrir, c'est plutôt donner. Le cosmopolitisme, oui, parce qu'il y a des musiques apparemment qui vous permettent d'être davantage en connexion avec vous-même. Je demandais si changer, comme vous l'avez fait, de pays, changer de langue, ça vous a éloigné ou rapproché de vous-même ?
Je pense que chaque chose qui nous ouvre l'esprit, changer de pays, changer de ville, rencontrer des nouvelles personnes, nous rapproche de nous-mêmes.
De la famille humaine.
Oui.
À propos de mots, tiens.
Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector?
Clarice Lispector. D'où vient le nom Lispector?
Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores.
Je ne sais pas, j'ai demandé, c'est un nom latin. J'ai demandé à mon père depuis quand existaient les Lispectors en Ukraine, selon lui depuis de nombreuses générations. J'imagine qu'en se transmettant, le nom a évolué et a perdu quelques syllabes, se transformant en autre chose.
Parece uma coisa, lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que quando aparece, quando eu escrevi meu primeiro livro...
On dirait lis au cœur en latin, fleur de lis. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais alors complètement inconnue, bien sûr, Sergio Millet a écrit. Cet écrivain, au nom désagréable, sûrement un pseudonyme, mais non, c'était mon vrai nom.
Esse escritor de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era meu nome mesmo.
Né en Ukraine en 1920, Clarice Lispector, que vous nous faites découvrir en sol majeur, Simone Menezes. Pourquoi elle sur votre île déserte?
C'est une femme qui pense, qui était dans un moment avant-gardiste, qui pense comme une artiste, qui a une belle plume, qui est cosmopolite. Donc, de façon inconsciente, je pense, maintenant, qu'on a beaucoup discuté d'autres choses, je vois plein d'éléments de valeur de cette femme qui me touche.
La liberté aussi. Mais ces textes, en particulier, il y en a un qui vous suit ?
Il n'y a pas un en particulier. J'ai toute sa poésie. Les choses qui me touchent, en particulier dans sa poésie, c'est qu'elle a un regard équilibré de l'émotion humaine entre la joie et la mélancolie. Donc, en général, ce que je sens pour ma nature sur certains poètes français, c'est qu'ils sont un peu plus mélancoliques que je voudrais. Et sur certains poètes de langue portugaise, qu'ils sont, c'est pas naïf, mais avec un optimisme solaire.
Candide ?
Ouais.
Peut-être.
Peut-être. Et je trouve qu'il... Clarice est là, c'est juste milieu entre deux, par ses mots et par les sujets qu'elle décide d'aborder.
Ce qui était joli, c'est qu'elle disait que le mot écrivain a un féminin en portugais, mais elle a toujours refusé son utilisation, assurant, je cite, « appartenir aux deux sexes ». Comment on dit précurseur au féminin ? C'est une question. Est-ce que vous diriez que la langue française commence, bah oui, on vient de l'entendre pendant une heure pratiquement sur RFI avec vous, commence à s'installer de façon habitée, je dirais, à côté de votre langue portugaise, Simone Menezes.
J'adore la langue française. Je trouve qu'elle a une précision des paroles qui je n'arrive pas encore à maîtriser et qui nous permet une réflexion plus profonde justement à cause de nombreuses possibilités qu'on a d'utilisation de ces précisions. C'est vraiment une langue de la poésie, une langue de la littérature.
Puis vous avez un professeur qui est votre enfant aujourd'hui.
Oui, ma fille aujourd'hui m'aide beaucoup.
Qui lit Victor Hugo.
Qui adore Victor Hugo, qui adore écrire, qui aussi a une belle plume et qui vit la littérature française vraiment.
Vous nous disiez au commencement de cette conversation qu'il y avait un lien entre la musique populaire portugaise et la chanson française. Je ne sais pas si ça va faire le lien, mais en tout cas, vous nous avez ramené une des plus belles chansons au monde. Évidemment, je suis totalement subjective, qui s'appelle « Samba de Uma, nota sol » de Tom Jobim. Et vous nous avez ramené les paroles en français. C'est très important parce que ça va nous aider à comprendre en fait le sens musical de la chanson elle-même. Comment est-ce qu'on fait, vous ? On envoie la chanson et sur l'introduction qui est assez longue, vous tentez de nous placer le texte en français. Simone Menezes, c'est entre nous, c'est à la bonne franquette, c'est en sol majeur.
Voici cette petite samba faite sur une seule note. D'autres notes vont rentrer, mais la base reste la même. Cela change les notes. Celle-ci, c'est la conséquence de ce que je viens de dire, et on revient à la même note, comme je suis la conséquence inévitable de toi. Et après, dans ces petits moments, il part dans toutes les notes et dit des gens qui partent en cherchant de toutes les notes, mais revient toujours sous la même note que c'est toi.
C'est magnifique d'avoir donné le secret même de la musique dans le texte lui-même. Merci Tom Jobim.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
En signalant que vous dirigez Detroit Symphony Orchestra, donc aux États-Unis, les 20 et 21 avril, et puis Vienne Chamber Orchestra Latin America Touring les 10 et 20 mai, avec l'accent. Je vous remercie d'être passé nous voir de façon très en sol majeur, Simone Menezes. Bon vent à vous.
Merci, mon plaisir.
À vous retrouver pour cette émission en podcast sur Pure Radio. Caroline Filiate, Horizon, Yasmine Chouaki. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de la chanteuse palestinienne Christine Zayed. Dans un instant, votre journal, suivi de La Marche du Monde.